tous les secteurs professionnels dédiés au bien public, tels que le soin, le travail social, la justice, l'éducation, la recherche, l'information et la culture, subissent depuis des mois des réformes gouvernementales qui assignent à ces secteurs des objectifs de rentabilité financière et de paranoïa sécuritaire qui remettent en question les fondements et engagements éthiques de ces professions. De nombreux mouvements de protestation et de résistance à cette idéologie du rentable et du sécuritaire ont ainsi vu le jour, des mouvements auxquels l'appel des appels lancé en décembre 2008 par les psychanalystes Roland Gori et Stéphane Chédry souhaitent donner des occasions de rencontres et d'échanges. Après le 104 à Paris, le 31 janvier 2009, une soirée était organisée à Marseille, à la Friche La Belle de Mai, le jeudi 12 mars 2009, soirée dans laquelle une vingtaine d'intervenants ont pris la parole devant un public nombreux pour dire les raisons de leur engagement dans la démarche initiée par l'appel des appels. Sur Radio Grenouille, nous vous proposons d'écouter certaines de ces interventions. Aujourd'hui, c'est celle d'Olivier Lanthelme, avocat.
Par bon nombre de gens de justice, y compris ceux qui avaient été séduits par un certain discours qui, moi, m'a toujours donné la nausée. Et survoler une avalanche de réformes sans précédent, auxquelles on a eu droit non pas depuis qu'un certain Nicolas Sarkozy est devenu chef d'État, mais avant cela, au moment où il entre en fonction au ministère de l'Intérieur. Une avalanche de réformes qui vont toutes dans le même sens, pour ne citer que les plus connues, loi dite Perben 1 et 2, loi dite Sarkozy 1 et 2, celle du 18 mars 2003 intitulée pour la sécurité intérieure, qui vient en fait pénaliser la misère. La misère, prostituée, le racolage passif, les vagabonds dits agressifs, j'ai toujours pas compris, je sais pas ce que ça veut dire, les jeunes à qui on n'a jamais offert que des halls d'immeubles en guise de salon pour aller discuter. Loi Sarkozy 1-2, Perben 1-2, loi lutte contre la récidive, loi dite peine plancher, où après avoir honteusement menti à l'opinion publique en taxant les juges de laxistes et en faisant croire qu'ils l'étaient, j'ai jamais rencontré de juges laxistes, j'ai plutôt au quotidien rencontré à la barre pénale des juges plutôt sévères, et quand ils n'étaient pas, eh bien on avait droit pas à des juges laxistes, mais tout simplement des juges qui n'avaient pas perdu le sens de l'autre, le sens de l'humain. Ça existe encore, tant mieux. Honteusement menti à l'opinion publique en faisant croire qu'ils étaient laxistes, et à partir de là, peine plancher, on a défini des seuils à minima, de peines automatiques ou presque, qui ne peuvent que conduire, si on applique bêtement, stupidement, aveuglément la loi, qui ne peuvent que conduire à des excès, à de l'injustice, à des naufrages. Loi dite peine plancher, loi dont on vient de parler à l'instant, rétention de sûreté, où pour la première fois depuis 1789, depuis deux siècles d'histoire pénale, on admet qu'on puisse priver un homme, une femme, de liberté pour une durée illimitée, non plus à raison d'un passage à l'acte, non plus à raison de la commission d'une infraction, mais à raison de ce que la personne est, ou de ce qu'on croit qu'elle est, ou de ce qu'on croit qu'elle peut être, ou de ce qu'on croit qu'elle est susceptible de faire. Il n'y a que l'exemple. Il n'y a que l'exemple de pays totalitaires qui nous offre un tel spectacle. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un Robert Badinter qui l'a écrit dans Le Monde 27 novembre 2007. Je lis. Avec la loi nouvelle, il nous parle de la loi à rétention de sûreté. Le lien est rompu. Il n'y a plus d'infraction commise, mais un diagnostic psychiatrique de dangerosité. Une prédisposition innée ou acquise à commettre des crimes. Que reste-t-il de la présomption d'innocence dans un tel système? Après un siècle, nous voyons réapparaître le spectre de l'homme dangereux, des positivistes italiens Lombroso et Ferri, et la conception d'un appareil judiciaire voué à diagnostiquer et traiter la dangerosité pénale. On sait à quelle dérive funeste cette approche a conduit le système répressif des États totalitaires. On y est, dans la France du XXIe siècle, dite patrie des droits de l'homme. Alors, tout ça, c'est autant de lois qui vont toutes dans le même sens, deux axes. Le premier, la justice est devenue un service public ordinaire, style la SNCF. Une entreprise économique inefficace, pas rentable, par définition, elle est là pour réguler les tensions sociales. Elle n'est pas rentable, il faut que la machine soit gérée à moindre coût, et plutôt que d'injecter du fric dans une machine pauvre, sait-on que dans l'espace européen, on est, en termes d'efforts budgétaires, par tête d'habitant, le 27e pays. Je parle du budget de la justice. 27e pays derrière les Lettonies et d'autres, en termes d'efforts budgétaires. Plutôt que d'injecter du fric dans la machine pauvre, on supprime les juridictions, c'est la réforme de la carte judiciaire, on réfléchit aux modes d'alternatives de poursuite, il faut éviter le recours au juge, il faut éviter le recours à l'avocat. On démultiplie des procédures alternatives en créant la procédure dite du plaidé coupable, en fait, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est désormais un procureur qui choisit une peine. C'est une nouveauté dans notre système. Peu importe le rapport à la vérité, il s'agit de juger vite, d'abattre, de gérer des flux à moindre frais. Ça, c'est le premier axe qui inspire le législateur actuel. Deuxième axe, et j'en aurai fini, d'inspiration du législateur actuel, le tout répressif, la machine à punir. Sur fond de discours populiste, sur fond d'un populisme exacerbé, sur fond de surenchère émotionnelle, on a décidé de légiférer en réagissant compulsivement à l'événementiel, un fait divers égale une loi ou presque. On a décidé de légiférer compulsivement aux larmes de victimes alors instrumentalisées, on surfe sur l'émotion collective suscitée par certains drames, comme on a surfé sur l'immense vague ultra-sécuritaire née le 11 septembre. C'est tout le discours sur la tolérance zéro. On a fait peur à la population, on en est même arrivé statistiquement, à mesurer le sentiment d'insécurité. On a fait peur à la population pour mieux légitimer une législation de plus en plus répressive, de plus en plus sécuritaire, de plus en plus liberticide. Si on fait une analyse transversale de ces lois, on comprend qu'on a surarmé un couple, le couple parquet-police, omniprésent, omnipuissant, en banalisant d'ailleurs le contrôle policier des individus et des citoyens. Il y a un fulchage qui est vulgarisé, c'est Edwige, c'est bas élèves et c'est d'autres fichiers tout aussi effrayants. On a droit donc à un surarmement du couple parquet-police, d'un couple aux ordres du pouvoir, le parquet hiérarchiquement aux ordres du garde des Sceaux. À côté de ça, on a droit à un effacement du juge du siège, frontalement attaqué, comme il ne l'a jamais été. Et pourtant, c'était dit à l'instant, son indépendance, elle est un enjeu démocratique considérable. Il est le seul véritable gardien et garant et protecteur de nos libertés. Le pouvoir a décidé de le déposséder autant que possible de sa souveraineté, de le mettre au pas au moment même où il avait conquis une chose qui ressemblait à de l'indépendance, à de la liberté, à un véritable pouvoir au sens de la trilogie chère à Montesquieu. Au moment où le juge du siège était devenu dangereux en allant chercher le politique qui avait commis des infractions, ou le financier, ou l'homme d'affaires, on a décidé lui aussi de le mettre au pas, jusqu'à l'annonce toute dernière de le supprimer. Je parle du juge d'instruction. Il faut voir et comprendre ce qui se trame derrière ça. En décidant de supprimer le juge d'instruction, on confie des enquêtes à un parquet omniprésent, omnipuissant, qui obéit au pouvoir exécutif, puisqu'il est sous la dépendance du garde des Sceaux. Alors, surarmement du couple parquet-police, effacement du juge du siège, anéantissement du droit de la défense et des avocats que nous sommes, et puis, au passage, mise à mal de tous les grands principes, y compris constitutionnels, qui sont sacrifiés les uns après les autres sur l'autel du populisme pénal. Alors, on pourrait développer tout ceci, c'est tout ceci qui m'affole, mais les 5 minutes sont largement écoulées, et je vais laisser la parole à celui qui me suivra. Je finis en vous disant que si on peut mesurer, comme je le pense sérieusement, l'état de bonne santé démocratique d'un pays à sa justice, alors notre société est malheureusement bien malade.
C'était une intervention d'Olivier Lanthelme, avocat, lors de la soirée de l'appel des appels, le jeudi 12 mars 2009 à Marseille, Friche-Label de Mai. Une nouvelle rencontre de l'appel des appels à Marseille est prévue pour le 17 avril 2009. Plus d'infos et contacts sur appeldesappels13.blogspot.com.